Hop, c'est bon. Donc, pardon, bonjour à tous. C'est d'autant plus problématique que je vais être obligée de vous laisser à 11h30, 11h35 max. Stop, on a dit ça. J'ai un engagement auquel je ne peux pas me soustraire derrière et même en partant le plus tard possible, je ne suis pas en capacité de vous lâcher plus large que ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit efficace. On est très large encore une fois. Là, on arrive quasiment au terme de l'enseignement, mais il va falloir qu'on soit efficace. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait introduit le chapitre 3 sur les sources des droits subjectifs. On avait expliqué que, en fait, il y avait deux types de possibilités sur la naissance du droit subjectif, en dehors des droits qui naissent de manière automatique à la naissance, à l'acquisition de la majorité, etc. Mais en dehors de ces hypothèses-là, sur la naissance des droits subjectifs, vous avez deux hypothèses qui se distinguent en fonction de la place de la volonté individuelle. Est-ce qu'on est face à une volonté qui va générer des effets de droit, auquel cas on est dans la catégorie des actes juridiques, pardon, ou est-ce qu'au contraire, la volonté est indifférente quant à la génération, quant à la création d'effets de droit? On va voir dans un instant que ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de volonté, mais ce n'est pas une volonté de créer du droit, de générer des effets de droit. Si effectivement la volonté est indifférente par rapport à la création d'effets de droit, alors dans ce cas-là, on sera face à un fait juridique. Et donc, en fait, l'étude des sources des droits subjectifs, ça nous amène à une double étude. Il y a deux hypothèses de sources, les faits juridiques, les actes juridiques. On va commencer tout de suite avec une première section, donc, sur les actes juridiques. Définition un peu technique, il y a la définition de messieurs Aubert et Savot que vous aurez reproduite sur les slides, c'est pas la peine de la noter. L'acte juridique est un acte volontaire, spécialement accompli par une personne pour produire, dans le cadre et les conditions du droit objectif, des effets de droit dont la nature et la mesure sont fondamentalement déterminés par sa volonté. Ça veut donc dire exactement ce qu'on vient d'expliciter en amont. C'est la volonté individuelle, le cas échéant la volonté individuelle qui va rencontrer une ou plusieurs autres volontés individuelles. C'est ce qu'on va voir dans une seconde avec les contrats. Mais c'est la volonté individuelle qui est à la source, qui crée les effets de droit. C'est parce que vous avez voulu l'effet de droit que l'effet de droit se produit. Voilà. L'acte juridique, c'est ça. Donc, la notion de manifestation de volonté, elle est absolument essentielle. On parlera dans quelques instants de la place de ce qu'on appelle la grande théorie de l'autonomie de la volonté. C'est la volonté individuelle, le cas échéant, encore une fois, qui rencontre celle d'un ou plusieurs autres, mais c'est la volonté individuelle qui est absolument centrale. C'est elle qui crée le droit dans ce cas-là. Et vous avez trois subdivisions à l'intérieur des actes juridiques, c'est-à-dire trois grandes catégories qui, ensemble, forment la catégorie suprême ou supérieure des actes juridiques. La première, qui est sans doute la plus importante, en tout cas celle que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est la catégorie de ce qu'on appelle les conventions, c'est-à-dire tous les accords de volonté. Je vous disais il y a une seconde, l'acte juridique, c'est l'expression d'une volonté pour produire des effets de droit, le cas échéant, une volonté qui rencontre celle d'un ou plusieurs autres. Précisément, quand vous avez un accord de volonté, c'est que plusieurs volontés individuelles, deux ou plus, vont se rencontrer. Et évidemment, donc encore une fois, ça veut dire à minima deux volontés, un accord, vous ne pouvez pas avoir un accord tout seul, il faut forcément au moins deux volontés, potentiellement plus, mais on part de l'idée dans l'accord de volonté que la volonté de l'un rencontre la volonté de l'autre ou des autres si on est sur des contrats multilatéraux. C'est l'exemple du contrat de vente qu'on n'arrête pas de donner depuis le début du cours en espèce de fil rouge. Si je décide ou si on se met d'accord pour que vous me vendiez votre ordi ou que je vous vende mon téléphone, peu importe entre nous qui a la place de vendeur, qui a la place d'acquéreur ou d'acheteur, si c'est moi qui vends mon téléphone, par exemple, ma volonté est de produire l'effet de droit d'un transfert de propriété contre une somme d'argent, donc je vous transfère la propriété, et votre volonté à vous est de faire l'acquisition, d'obtenir la propriété d'un bien en contrepartie d'une somme d'argent dont vous vous acquitterez. On décide donc de produire ces effets de droit-là. Ce n'est pas les mêmes effets qu'on produit si on décide, et là encore, donc c'est le rôle déterminant de la volonté, que finalement, mon téléphone, je ne vous le vends pas, je vous le donne. Et dans ce cas-là, l'effet de droit qu'on aura voulu produire, c'est un transfert de propriété sans contrepartie financière. Et on peut multiplier les exemples. Je ne décide pas de vous le vendre ou de vous le donner, mais je décide de vous le prêter. Voilà. Et il y a plein d'hypothèses comme ça, où on peut choisir autant de contrats qu'il en existe dans le code civil, en fonction de la volonté qu'on va manifester, l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, en fonction de l'hypothèse contractuelle. Mais donc vous voyez bien que là, il y a une rencontre de volonté. La notion de rencontre de volonté, vous allez l'approfondir très très nettement quand vous ferez du droit des contrats en deuxième année l'an prochain, mais c'est une notion absolument centrale, et de toute façon, il faut la saisir pour comprendre là la grande catégorie reine dans les actes juridiques. On a donné l'exemple du contrat de vente, donation, prêt, etc. Je me suis engagée avec l'un ou l'une d'entre vous. Ça veut dire aussi, à contrario, que je ne me suis pas engagée avec les autres. Que autant le contrat, vous approfondirez ça aussi en droit des contrats, mais autant le contrat, c'est la formule consacrée, tient lieu de loi entre les parties, donc entre moi et celui ou celle avec qui j'ai conclu le contrat, ça veut dire que c'est la force obligatoire du contrat, le contrat s'impose à nous, va créer des obligations à la charge de chacun de nous deux ou de chacune de nous deux, a contrario, ce contrat-là est sans effet aucun sur l'ensemble de l'amphi. Voilà. C'est ce qu'on appelle ça l'effet relatif des conventions. Ne sont concernés par la force obligatoire des contrats que ceux qui y sont soumis, que les parties qui l'ont conclu. A contrario, donc, tous les autres qui n'ont pas conclu le contrat, bon, bah, au mieux, vous assistez à la scène, mais pour vous, il n'y a pas d'effet juridique qui se développeront. Voilà. L'effet relatif des conventions, c'est ça. Ne sont concernés par les effets de droit générés que les parties au contrat. Parce que ce n'est pas un effet absolu, général, comme par exemple la règle de droit qui concerne tout le monde, c'est un effet relatif, limité aux parties, voilà, qui ne produit d'effet que pour les individus, que pour les personnes, plus exactement, qui ont manifesté leur volonté de conclure le contrat. On l'avait brièvement évoqué, la catégorie des contrats synalagmatiques, il faut en redire un mot ici. Un contrat, par définition, il va générer des obligations. Mais il ne va pas générer forcément des obligations à l'égard de toutes les parties contractantes. Vous pouvez vous engager dans un contrat sans que ça ne génère d'obligations de votre part. Ça va générer des obligations sur la tête des deux parties quand c'est ce qu'on appelle un contrat synalagmatique. Attention à l'orthographe, vous l'avez au tableau. Le contrat synalagmatique, c'est le contrat dans lequel chacune des deux parties va souscrire une obligation au bénéfice de l'autre. Le caractère synalagmatique, c'est une idée de caractère mutuel, de réciprocité. Et c'est l'exemple du contrat de vente ou du contrat de prêt éventuellement. Dans le contrat de vente, moi, je me suis engagée à transférer la propriété de mon bien. Vous, vous vous êtes engagée à payer le prix. Ça veut dire que chacun, dans un contrat synalagmatique, est cumulativement créancier et débiteur. Ça paraît technique comme ça. En fait, c'est très simple. Moi, dans notre exemple, je suis débitrice d'une obligation de transfert de propriété, c'est-à-dire que je dois vous transférer la propriété, c'est mon obligation, mais par contre, je suis créancière de votre obligation à vous qui est de payer le prix. Donc, je suis à la fois débiteur et créancier. De la même manière, de votre côté, vous êtes débiteur de l'obligation du paiement du prix, mais vous êtes créancier ou créancière du transfert de propriété qui va s'opérer à votre bénéfice. Ça, c'est un contrat synalagmatique. Donc, en fait, il y a deux flèches. Chacun s'engage à l'égard de l'autre et c'est des obligations réciproques. Il existe aussi en parallèle ce qu'on appelle des contrats unilatéraux. Et là, c'est un peu différent. Alors, attention. La notion même de contrat unilatéral, elle peut un peu vous surprendre. On vient de dire un contrat, c'est nécessairement un accord de volonté. Donc, à première vue, il y a quelque chose de presque antinomique, de contradictoire dans la notion de contrat, donc d'accord de volonté entre au moins deux personnes, unilatéral, ce qui veut dire qu'a priori, il n'engage qu'une seule personne. En réalité, c'est assez simple, c'est l'exemple qu'on vient de donner là à l'instant en parallèle du contrat de vente. Si on ne conclut pas un contrat de vente mais une donation, vous acceptez cette donation. Il y a donc bien un accord de volonté. On s'est mis d'accord pour que je vous donne mon téléphone. Nos deux volontés individuelles se sont donc bien rencontrées. Simplement, je suis la seule des deux parties au contrat à avoir souscrit une obligation, qui est donc une obligation de transmission de la propriété de mon bien. Vous n'avez aucune obligation. Pas de paiement de prix, rien du tout. C'est en ça qu'on parle de contrat unilatéral. Le contrat est unilatéral quand une seule des parties souscrit une obligation au bénéfice de l'autre. Donc, contrat synalagmatique quand chacune des parties contractantes a une obligation, contrat unilatéral quand une seule des parties au contrat souscrit une obligation. Mais dans un cas comme dans l'autre, on a bien une rencontre des volontés pour générer des effets de droit, pour produire des effets de droit, et parce qu'on a bien une rencontre des volontés, et bien par définition, on est bien face à un contrat qui rentre dans la catégorie un peu plus générale des conventions, qui rentre dans la catégorie générique des actes juridiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un contrat, par essence, c'est une rencontre de volonté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, alors je ne l'approfondis pas parce que ça relève vraiment du cours de L2, mais c'est la théorie de l'autonomie de la volonté. Toujours vous rattacher à la syntaxe, à l'étymologie, pardon, plus qu'à la syntaxe ici. Étymologiquement, l'autonomie de la volonté, c'est la capacité de créer ses propres règles, sa propre loi. C'est du grec ancien, autonomos, sa propre loi. Voilà. Donc l'autonomie de la volonté, c'est le concept, l'idée que la volonté individuelle est capable de créer son propre droit, ses propres règles applicables. Quand je décide de m'engager dans un contrat de vente, c'est moi qui décide, avec l'autre partie par définition, de générer des effets de droit. Alors la précision dans la définition du traité d'Aubert et Savoie, de messieurs Aubert et Savoie, est très importante. Évidemment, dans le cadre et les conditions du droit objectif. Ça veut dire ça que ma volonté, elle ne peut se manifester que dans ce que me permet le droit. On a pris l'exemple là du téléphone. Si je décide de vous vendre ma fille, voilà, l'autonomie de la volonté va prendre un coup d'arrêt. C'est ça en fait, dans la définition, dans le cadre et les conditions du droit objectif. Dans l'espace, dans le périmètre de ce que permet le droit, donc le droit objectif, hein, alors nos volontés, ma volonté, la vôtre, éventuellement quand elles se rencontrent, peuvent générer des effets de droit. Ça ne veut pas dire évidemment, et c'est pour ça que je prends cet exemple-là qui est le plus tranché, un des plus tranchés, qu'on peut faire absolument ce qu'on veut avec la volonté individuelle. Elle est cadrée par ce que permet le droit objectif. Mais tant qu'on reste dans les clous, en quelque sorte, l'écrire pas comme ça, évidemment, c'est pour expliciter ici. Mais tant que vous restez dans le bornage de ce que vous autorise le droit objectif, alors votre volonté individuelle va être en capacité de générer des effets juridiques. Voilà. Et évidemment, si vous sortez du cadre, alors là, c'est le droit objectif qui va reprendre le relais et qui, le cas échéant, va par exemple annuler le contrat qu'on aura conclu parce qu'il porte sur un objet illicite, etc. Donc, ça c'est la première catégorie, les conventions, la notion de rencontre de volonté. Ma volonté individuelle en tant que personne qui va à un moment s'accorder avec la volonté individuelle d'un autre. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des actes juridiques unilatéraux. Alors, la définition, vous l'avez là encore au tableau, c'est l'acte volontaire par lequel une personne, par sa seule volonté, détermine des effets de droit. Là encore, le premier réflexe, quand on commence, ça peut être de se dire « c'est pas possible, le juriste, il se complique toujours la vie à outrance et on vient de voir la notion de contrat unilatéraux Et en parallèle des contrats unilatéraux, on a la notion d'acte unilatéral. Et pourquoi ce n'est pas la même chose alors que les deux sont des actes juridiques? Parce que ce n'est pas la même chose. Dans l'exemple que je viens de vous donner, le contrat unilatéral, je vous ai bien précisé, attention, il n'y a qu'une seule partie qui s'engage, qui souscrit une obligation plus exactement, mais les deux parties ont manifesté leur volonté. Les deux volontés se sont rencontrées sur un objet commun, etc. Donc il y a bien un contrat, donc il y a bien un contrat qui est juste unilatéral. L'acte unilatéral, ce n'est pas ça. Là, il n'y a pas de rencontre de volonté. C'est pour ça que c'est une deuxième catégorie. Exemple, un testament. Je rédige mon testament, moi, aujourd'hui, et je décide que, là encore, dans le cadre et dans les conditions du droit objectif, vous savez par exemple qu'en France, contrairement à certains systèmes étrangers, vous ne pouvez pas complètement déshériter vos enfants. Il y a ce qu'on appelle, vous verrez ça en droit des successions, ce n'est pas pour tout de suite, mais il y a ce qu'on appelle le cas réservataire. Les héritiers directs ont une garantie d'avoir une part au moins, même si elle peut être réduite sur le reste, mais une part de ce qui viendra dans la succession. Quand je rédige un testament, je décide toute seule des effets juridiques qui seront produits à mon décès. Je répartis dans le cadre de ce que m'autorise la loi, le droit objectif, je répartis mes biens. Mais je demande l'autorisation à personne. Et c'est pour le coup les scènes que vous voyez dans les films, dans les séries, où il y a l'ouverture du testament. Alors, ça ne se passe pas exactement comme au cinéma en pratique, mais les héritiers découvrent. Voilà. Vous découvrez les effets de droit qu'on a fait produire au décès. Parce que c'est un acte juridique unilatéral. Je rédige mon testament dans mon coin, et à ma mort, les héritiers, les successibles éventuels, vont découvrir la répartition que j'ai opérée. Personne ne s'est mis d'accord. Un testament, par définition, vous le rédigez tout seul. Alors, ça n'empêche pas que dans certaines hypothèses, vous allez en parler, prévenir, etc. Mais ça reste un acte juridique unilatéral. Vous l'avez fait, s'il vous plaît. Vous l'avez fait tout seul ou toute seule dans votre coin. Donc, c'est ça la grande différence. D'un côté, on a une rencontre de volonté. De l'autre, on a une manifestation de volonté seule, isolée, qui ne rencontre pas la volonté de l'autre. Et a posteriori, ça n'empêche pas les héritiers éventuels. C'est ce qu'on expliquait quand on parlait du patrimoine. C'est ce qu'on expliquait quand on parlait du patrimoine. Vous pouvez vous retrouver successible dans une succession où il y a plus de passifs que d'actifs. Parfois, ça ne va pas vous arranger du tout. Donc, vous allez refuser la succession. Mais donc, ce n'est pas un accord de volonté. Là, pour le coup, en plus, l'exemple du testament, c'est sans doute le plus parlant. Les volontés risquent pas de se rencontrer. Moi, j'ai exprimé ma volonté de mon vivant, de la répartition de mes biens. Ce que vous déciderez ensuite, c'est une volonté qui n'engage que vous, mais par définition, vu qu'au moment où vous déciderez, moi, je ne suis plus là, on risque pas d'avoir nos volontés qui se rencontrent. Voilà. Donc, c'est des volontés individuelles qui s'expriment. La mienne sur la répartition de mes biens quand je rédige mon testament. La vôtre quand vous acceptez ou refusez une succession, mais il n'y a pas de rencontre des volontés. C'est pour ça que ce n'est pas un contrat unilatéral, mais que c'est un acte juridique unilatéral. Dernière catégorie, la catégorie de ce qu'on appelle les actes juridiques collectifs. Alors là, je vais passer beaucoup plus vite. C'est essentiellement l'hypothèse des conventions collectives en droit du travail. Ici, je crois que c'est en L3, le droit social, le droit du travail. Donc vous verrez ça un peu plus tard, mais il faut savoir que ça existe. Les conventions collectives que vous trouvez donc très fréquemment en droit du travail, elles sont un peu particulières, elles ont une nature un peu particulière. Certains d'entre vous sont sans doute salariés et donc soumis à des conventions collectives. Ces conventions collectives, elles ont été négociées entre des représentants, des employeurs, des employés, des salariés. Et en fait, la particularité, c'est que donc, dans l'absolu, cette négociation entre employés et employeurs, entre représentants d'employés et représentants d'employeurs, ça génère une forme de contrat. Les volontés vont se rencontrer entre les représentants. Sauf que du coup, la spécificité, et c'est pour ça qu'on parle d'acte collectif, c'est que là, pour le coup, demain, vous êtes salarié, on vous applique la convention collective du secteur, vous n'avez rien négocié du tout. La convention, elle vient à vous. Elle a été négociée par d'autres et parce que vous êtes salarié dans le secteur concerné, on va vous appliquer la convention collective. Mais dans l'absolu, ce n'est pas vous qui l'avez négociée. Donc c'est pour ça que là, on parle de caractère collectif. En fait, c'est une rencontre de volonté, représentant d'employé, représentant d'employeur, qui va au-delà des seules volontés qui se sont manifestées. Vous allez appliquer la convention collective dans un secteur donné, et donc vous, quand vous concluez votre contrat de travail, bah, par définition, a priori, vous n'avez pas pris part à la négociation de la convention collective. Elle va venir s'appliquer à vous parce que vous êtes salarié dans tel ou tel secteur. Donc, elle a un caractère collectif parce que finalement, le caractère, l'effet relatif des conventions dont on parlait tout à l'heure, là, il est plus incertain. Il est plus vraiment relatif, en tout cas, il est moins relatif puisqu'il va quand même s'appliquer, ces conventions, elles vont quand même s'appliquer à des personnes qui n'ont pas directement exprimé leur volonté sur la convention collective. Voilà pour la catégorie des actes juridiques. Et il faut dire un mot maintenant de la seconde catégorie, qui fait donc l'objet d'une section 2, et qui est la catégorie, cette fois-ci, des faits juridiques. Vous avez bien compris, si on reprend la slide d'ouverture, que donc là, par définition, quand on est dans la catégorie des faits juridiques, c'est plus la volonté qui est à la source des effets de droit, qui génère les effets de droit, mais c'est la règle de droit elle-même. La volonté, elle est indifférente à l'existence, à la création d'effets de droit. Alors, si on prend les définitions un peu techniques avant de les décortiquer. Les faits juridiques, ce sont les événements, c'est ce que vous avez au tableau, volontaires ou involontaires, qui engendrent des effets de droit directement déterminés par la loi. Et là, encore une fois, on se dit potentiellement, je n'y comprends plus rien, on vient de me dire que le fait juridique, c'est celui où la volonté était indifférente, et là, on me parle de faits involontaires, là, ok, ou volontaires, et là, je comprends plus rien. Relativement aisé si vous prenez un tout petit peu de recul. Encore une fois, ce n'est pas n'importe quelle volonté qui nous intéresse ici pour distinguer les actes et les faits. C'est la volonté de créer des effets de droit. Cette volonté-là, elle n'existe pas dans les faits juridiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté pour autant. Alors, je vais vous donner un exemple, hein, ça sera plus clair ensuite. L'exemple le plus connu, en tout cas la grande disposition, je vous en ai déjà parlé, que vous connaîtrez par cœur, à la fin de la deuxième année, a priori, c'est l'ancien article 1382 du Code civil, qui est devenu l'article 1240 avec la réforme de 2016 par ordonnance. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Voilà. C'est en gros la grande règle du droit de la responsabilité civile. Si on la traduit, vous causez un dommage, la loi va vous rendre responsable. La loi ne vous laissera pas le choix, vous serez tenu à la réparation. Que ce fait soit volontaire ou pas. Imaginons qu'on avait pris l'exemple la semaine dernière, je crois, que vous ayez créé un accident de la circulation. Peu importe qu'il ait été volontaire ou pas. Alors attention, ça va avoir des incidences au pénal, évidemment. Mais sur le volet civil, sur la qualification civile de acte ou fait juridique, que vous ayez eu un accident parce que vous vous êtes endormi au volant ou que vous ayez eu un accident parce que vous visiez précisément la voiture d'en face et vous l'avez fait exprès, ça ne change rien. Vous visiez la voiture d'en face le cas échéant parce qu'il y avait un truc de vengeance à assouvir, etc., peu importe. Mais la volonté que vous avez manifestée dans ce cas-là, c'est une volonté de vengeance. Pas une volonté de générer des effets de droit. Voilà. Les effets de droit qui en découleront, les règles de responsabilité qui s'appliqueront, qui viendront vous obliger à réparer le dommage que vous avez fait subir à la victime, ces effets-là, ils sont directement déterminés par la loi. C'est la loi qui va faire produire à votre comportement, que ce comportement ait été volontaire ou involontaire, c'est la loi qui va faire venir qui va faire produire des effets à la situation. Votre volonté individuelle, là, elle n'a aucune incidence sur la création, la génération des effets de droit. Vous pouvez adopter un comportement parfaitement volontaire, mais cette volonté-là ne porte pas sur la création des effets juridiques. Elle porte sur la vengeance, ce que vous voulez. C'est pareil si vous rayez une voiture. Vous êtes hyper jaloux parce que le voisin, il a la nouvelle Tesla et que Vous, vous n'avez pas de voiture du tout, et donc, ben, vous rayez sa voiture. C'est volontaire. Ça vous agace de voir une belle Tesla garée devant chez vous à chaque fois quand vous rentrez. Vous avez donc eu la volonté d'adopter ce comportement-là, sans aucun problème. Pour autant, les effets qui vont en découler, votre obligation à réparer le dommage matériel que vous avez causé à la voiture, etc., ça, c'est pas de votre ressort. C'est les règles qui vont venir à vous et qui s'appliqueront telles quelles. Donc, attention à ça. Ne pas exclure totalement la place de la volonté dans les faits juridiques, parce qu'elle existe, la volonté. Mais c'est pas une volonté de créer des effets de droit. Qui est paumé? Pour qui est-ce que ça va? D'accord. Il y a deux grandes catégories dans les faits juridiques, une fois qu'on a précisé ça. D'abord, ce qu'on appelle les faits de la nature. Bon, ben, comme leur nom l'indique, hein, c'est les faits naturels. C'est-à-dire, d'abord, ceux qui se rattachent à la vie de l'homme, la naissance, la mort. Ou là encore, hein, comment le dire de manière tranchée? Que ce soit une mort naturelle ou un suicide, donc un fait volontaire, par définition, hein, sur le suicide, ça ne change pas la qualification. Les règles qui découleront, qui seront des règles du droit des successions, etc., qui s'appliqueront à votre défait, sont générées par la loi. Le fait que la mort ait été un fait volontaire ou involontaire, ça ne change rien. Parce que par définition, même s'il y a volonté, c'est une volonté qui n'a pas d'incidence sur les effets de droit qui seront générés. La naissance, à la limite, c'est pareil. Il y a une grossesse qui n'était pas prévue ou une grossesse qui était attendue depuis des années, ça n'empêche qu'au final, la personnalité juridique qui va émerger si la grossesse va à terme et que l'enfant naît, c'est la même. Voilà. Il n'y a pas d'incidence de la volonté sur ces éléments-là. L'autre type de catégorie dans les faits naturels, les faits de la nature, c'est des faits dont on parle beaucoup en ce moment, c'est toutes les hypothèses de la nature au sens le plus strict. Les tornades, les tempêtes, les inondations, les incendies, etc. Tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle des faits naturels dans la catégorie des faits juridiques. Vous en rencontrerez beaucoup en droit des contrats, parce que les hypothèses de faits naturels de ce genre-là sont ce qu'on appelle des cas de force majeure en droit des contrats. Vous aviez souscrit, j'en sais rien moi, vous avez payé 15 euros de plus ou 20 euros de plus pour avoir une livraison express en 24 heures chrono. Donc vous avez conclu un contrat, hein, livraison de transport du bien que vous avez acheté. Et puis en fait, c'est tombé sur le jour où il y a eu une tempête immense. Et donc la livraison ne s'est pas opérée. Et donc votre réflexe, ça va être de dire, voilà, pas tout le monde, mais on va partir de ce principe-là. Ben, mon contrat n'a pas été respecté. Donc j'agis, parce que moi j'ai payé pour une livraison et je ne l'ai pas eu. Et le co-contractant sera en capacité de vous opposer ce qu'on appelle un cas de force majeure, c'est-à-dire, c'est pas de mon fait, je n'y suis pour rien. Si la réalisation du contrat n'a pas pu s'opérer dans les clous qu'on avait fixés, dans les cadres qu'on avait fixés, parce que la tempête qui est intervenue m'a par définition empêché de procéder à une livraison comme on l'avait envisagé dans le contrat. Donc les cas de force majeure, les faits naturels, pardon, de ce type-là, Les ouragans, c'est quand même un peu plus rare chez nous, mais les inondations, etc., vous allez les trouver très largement quand vous verrez les hypothèses de non-responsabilité en droit contractuel, par définition, puisque c'est très souvent caractérisé comme des cas de force majeure. Ensuite, vous avez l'autre catégorie, qui est ce qu'on appelle la catégorie des faits de l'homme. Est-ce que vous voulez faire une pause maintenant, ou est-ce que comme on a commencé plus tard, on fait cette catégorie-là avant de faire un break? On avance ? Ok, parfait. La catégorie des faits de l'homme, donc. Encore une fois, on est dans les sources. Dans les sources, il y a les actes, les faits. Là, on est dans les faits. On a vu les faits de la nature. On passe aux faits de l'homme, qui vont se subdiviser eux aussi. Vous avez dans la catégorie des faits de l'homme les délits, les quasi-délits, les quasi-contrats. Un mot pour que vous compreniez bien avant de rentrer dans le détail des sous-catégories. Vous comprenez bien qu'ici, contrairement au fait de la nature, il y a un rôle de la volonté, même sous-jacent. Pardon. Encore une fois, je me répète, mais je le fais exprès. Attention, vous pouvez avoir une volonté très claire, limpide, pensée en amont pendant des mois d'adopter ce comportement-là, Pour autant, votre volonté ne tend pas vers la réalisation des effets de droit. Votre volonté n'a pas pour effet de générer des effets de droit. À la limite même que vous ayez voulu obtenir l'effet de droit concerné. Je prends un exemple hyper tranché, mais pour que tout le monde voit bien. Vous avez adopté ce comportement-là parce que, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, vous avez vraiment envie de vivre en prison pendant quelques mois ou quelques années. Donc vous vouliez générer cet effet de droit-là, d'avoir une peine d'emprisonnement. Mais si ça avait été pour un autre motif, la sanction, ça aurait été la même. C'est pas parce que vous avez voulu la prison que vous obtenez la prison. C'est parce que vous avez adopté ce comportement-là que le législateur et le juge derrière dans l'application vous disent « L'application, c'est ça. La règle, c'est ça. L'effet de droit généré par le comportement, c'est ça. » Que vous ayez voulu ou pas obtenir l'effet de droit, c'est sans aucune incidence. Si moi, j'adopte le même comportement que ce que vous avez fait en ayant une peur panique des peines privatives de liberté, donc de la prison, ça sera la même, hein. On va pas se dire « Ah ouais, mais elle voulait vraiment pas la prison. » Donc on va adapter l'application de la règle. C'est la même chose. La volonté est indifférente dans ces cas-là sur les effets de droit générés, quand bien même elle existerait par ailleurs, cette volonté-là. Donc vraiment, faites attention à ça, c'est décisif. Et ça n'aurait pas de sens de schématiser en disant « Du coup, il n'y a pas de volonté dans les faits juridiques. » Si, évidemment. Alors, maintenant qu'on a précisé ça, quelques mots de chaque catégorie. D'abord sur les délits et ensuite les quasi-délits. Le délit, c'est le dommage qui est causé à autrui, et c'est donc l'article 1240. Vous causez un dommage, vous réparez ce dommage. Ce délit-là, dans la catégorie des délits, donc les délits, il y a une intentionnalité. S'il n'y a pas d'intentionnalité, si c'est un fait qui est illicite par définition, mais non intentionnel, on bascule dans la catégorie des quasi-délits. Et là, ce n'est plus l'article 1240, c'est l'article 1241. Ne le notez pas, je vous le lis, vous irez le rechercher, 1241 du Code civil. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Là, vous ne l'avez pas fait exprès. Juste, vous n'avez pas fait attention, vous avez été hyper imprudente. Et en étant hyper imprudent, hyper imprudente, vous avez causé un dommage à quelqu'un d'autre. Là, il n'y a plus d'intentionnalité, il y a une imprudence, il y a une négligence, et donc dans ce cas-là, on est dans la catégorie des quasi-délits. En règle générale, on associe aux quasi-délits les hypothèses de responsabilité sans faute dont on avait déjà un peu parlé, que vous verrez là encore en oblique l'année prochaine. Les responsabilités sans faute, en gros, c'est la responsabilité des personnes, enfin, des propriétaires à l'égard des choses. Si le propriétaire d'une chose, elle cause à autrui un dommage, vous êtes obligé de réparer ce dommage parce que la chose dont vous êtes propriétaire a généré un dommage pour autrui. Évidemment, ça inclut les hypothèses des animaux, puisque ce sont des choses. Donc, il y aura une hypothèse de responsabilité sans faute directe de votre part si votre animal cause un dommage à autrui. De la même manière, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, c'est une autre hypothèse de responsabilité sans faute. Si votre enfant cause un dommage à autrui, vous êtes responsable, alors que vous-même, directement, vous n'avez rien fait. Et c'est l'hypothèse aussi des employeurs, la responsabilité sans faute des employeurs vis-à-vis de leurs préposés, donc des salariés. Vous verrez ça en L2, mais généralement on y rattache les quasi-délits. Et puis en parallèle de délits, quasi-délits, on trouve les quasi-contrats. Et là encore, on se dit, on a vu les contrats dans les actes juridiques, pourquoi je retrouve le terme ici alors qu'on a expliqué pendant un quart d'heure avant que par définition, un contrat, c'est un acte juridique. Bah précisément parce qu'ici, c'est pas un contrat, c'est un quasi-contrat. Voilà. Donc, il n'est pas vraiment un contrat. S'il n'est pas un contrat, c'est pas un acte et donc c'est un fait. Voilà. Retenez-le comme ça. Maintenant, évidemment, il faut expliciter ce que c'est. Alors, la première différence à opérer, notamment avec le quasi-délit, c'est que le quasi-délit, on a dit que c'était le fait illicite. Le quasi-contrat, c'est le fait licite. Voilà. Là où le quasi-délit est un fait illicite, le quasi-contrat est un fait licite, qui ne constitue pas donc une faute civile. Qu'est-ce que c'est en fait un quasi-contrat ? Si je résume avant de vous donner la définition des trois hypothèses. Le quasi-contrat, c'est un engagement sans contrat, sans convention. En fait, vous vous êtes engagé, mais il n'y a pas de contrat. Alors, ça peut paraître un peu étonnant là. Je vais essayer de vous expliquer les trois hypothèses. Donc, les trois appellations aujourd'hui, c'est la gestion d'affaires, la restitution de l'indu et l'enrichissement injustifié, pardon. Ce qu'on appelait antérieurement l'enrichissement sans cause. Alors, quelques mots de chacune des trois catégories. D'abord, la gestion d'affaires. Vous allez avoir une personne qu'on appelle le gérant d'affaires dans les qualifications, une personne qui va accomplir un acte pour le compte d'un tiers qu'on appelle le maître d'affaires. Donc dans une gestion d'affaires, vous avez le gérant d'affaires d'un côté, le maître d'affaires de l'autre, et donc le gérant d'affaires accomplit un acte pour le maître d'affaires, en dehors de tout mandat, donc en dehors de tout contrat. Le gérant d'affaires va accomplir un acte pour l'autre alors qu'il n'y a aucun contrat qui l'y autorise. Exemple. Vous avez un ami, une amie qui est partie en vacances et qui vous a demandé de venir arroser ses plantes pendant qu'elle n'était pas là ou qu'il n'était pas là. En arrivant, vous constatez qu'il y a une fuite. Elle ou il n'est pas joignable parce qu'il est dans l'avion, etc. Et vous vous dites, là, il faut que j'appelle tout de suite un plombier, il faut trouver une... Vous agissez donc pour le compte d'un tiers, sans mandat pour le faire. C'est ça une gestion d'affaires. Vous allez conclure un contrat au bénéfice d'autrui, là en l'espèce, si vous faites appel à un dépanneur, alors que vous n'avez pas été mandaté par votre ami là pour agir en votre nom. Mais dans l'urgence, vous allez vous substituer à lui ou à elle, vous allez agir pour lui, là dans notre hypothèse en faisant appel à un service de dépannage, sans qu'il y ait de mandat pour vous permettre de le faire. Si c'est vous qui avez payé, après l'hypothèse du remboursement, elle est compliquée si on n'a pas les quasi-contrats. Votre copain revient, votre copine revient et dit « Non mais moi j'ai rien demandé, je rembourse pas. Hein. Ça t'a coûté 800 euros, merci beaucoup, mais moi j'aurais pas fait comme ça, je rembourse pas. » L'intérêt du quasi-contrat est de vous permettre, on va voir dans quelle mesure derrière, de vous permettre d'obtenir au moins une part du remboursement malgré l'absence de contrat en vous fondant sur la notion de gestion d'affaires et donc de quasi-contrat. Deuxième hypothèse, ce qu'on appelle la restitution de l'indu. C'est ce qu'on appelait antérieurement le paiement de l'indu. Maintenant, on parle de restitution de l'indu. Qu'est-ce que c'est la restitution de l'indu ? Donc, elle est... Oui, je ne l'ai pas dit, la gestion d'affaires, vous la trouvez à l'article 1301 du Code civil. Apprenez pas les numéros, encore une fois, c'est juste si vous voulez aller lire l'article qui est sur la gestion d'affaires, 1301. La restitution de l'indu, c'est 1302-2 du Code civil. 1302-2. Et 1302-2 vous dit « Celui qui, par erreur ou sous la contrainte, a acquitté la dette d'autrui, peut agir en restitution contre le créancier. » Exemple, dans le cadre d'une succession, vous payez une dette que vous ne deviez pas payer, ce n'était pas à vous de le faire. Le cas échéant, parce qu'elle a déjà été acquittée, elle a déjà été payée cette dette-là. Dans ce cas-là, vous pourrez obtenir une restitution de ce que vous ne deviez pas payer en principe, d'où la sémantique restitution de l'indu. Vous allez récupérer ce que vous avez payé alors que vous n'auriez pas dû. Voilà. Là, l'expression, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc, pour l'instant, dans les quasi-contrats, on a vu la gestion d'affaires, l'enrichissement, la restitution de l'indu, pardon. Nous reste donc la troisième catégorie qu'on appelait antérieurement l'enrichissement sans cause. La notion de cause, vous le verrez en L2, en contrat, étant une notion très complexe, on a changé d'appellation et on parle maintenant d'enrichissement injustifié. C'est l'article 1303 du Code civil cette fois-ci. Alors, cette hypothèse-là, elle vise l'hypothèse où vous avez une personne qui bénéficie au détriment d'autrui d'un enrichissement. C'est des vases communicants en fait. l'une des deux personnes va réaliser un acte qui l'appauvrit au bénéfice d'une autre personne qui l'enrichit. Donc A réalise un acte. Je vais vous donner un exemple ensuite. Cette réalisation de l'acte appauvrit A, mais comme cet acte est accompli au bénéfice de B, la réalisation de cet acte enrichit B. Éventuellement, on peut obtenir un dédommagement de cet enrichissement antérieurement sans cause aujourd'hui injustifié. Exemple que vous verrez au second semestre en droit de la famille, sans doute. Ce qu'on appelle, le terme est un peu suranné aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on le vise juridiquement, ce qu'on appelle les situations de concubinage. C'est-à-dire une vie en couple, quel qu'il soit, en dehors des cadres légaux qui existent et qui sont en gros le mariage et le pax. Voilà. Une vie de couple qui n'est pas organisée autour d'un des deux régimes qu'on connaît bien, le pax ou le mariage. C'est ce qu'on appelle du concubinage. C'est une situation de fait. C'est ni un mariage ni un pax, c'est une situation de fait. Vous vivez dans une situation de concubinage. Et la personne avec laquelle vous vivez est propriétaire de l'appartement dans lequel vous vivez. Et vous allez réaliser des travaux pour des sommes hyper importantes en les payant vous, et puis en investissant du temps, de l'énergie. Ça vous a pris des dizaines d'heures pour rénover. Vous avez fait une cuisine ouverte canon, une douche à l'italienne, etc. Et puis du jour au lendemain, c'est fini. Et vous n'êtes plus ensemble. Et bien grosso modo, vous vous retrouvez avec vos valises. Et la personne avec qui vous étiez se retrouve avec un appartement dont la valeur a augmenté du fait des rénovations qui ont été opérées. Autrement dit, les actes que vous avez accomplis vous ont appauvri au bénéfice d'un autre qui en tire un profit. C'est de l'enrichissement injustifié. En cas de séparation, il est possible d'obtenir un dédommagement, alors partiel, mais il y a une possibilité d'obtenir un dédommagement dans l'hypothèse où vous avez été confronté à un enrichissement injustifié. Voilà pour les catégories de quasi-contrats. Et donc vous voyez bien que dans les trois hypothèses, la gestion d'affaires, la restitution de l'indu et l'enrichissement injustifié, on est en fait dans une situation qui aurait pu présenter un contrat, mais qui n'en présente pas. D'où l'appellation de quasi-contrat. Voilà. Et encore une fois, la grosse différence entre les quasi-délits et les quasi-contrats, pourquoi on a deux catégories ? Parce que les quasi-délits, c'est les faits illicites, alors que les quasi-contrats, c'est les faits licites. Et la distinction s'opère comme ça. On en termine ici avec ce chapitre relativement bref, qui était donc relatif à la distinction entre les actes et les faits juridiques. Cette distinction, même si on l'a abordée relativement brièvement par rapport à d'autres chapitres, elle amène à un point absolument décisif, qui sera donc le dernier chapitre du cours, et qui est la question de l'application des droits subjectifs. On fait une pause 10 minutes et on reprend ensuite.